VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Crise migratoire, au moins 58 migrants sont morts dans le naufrage d'une embarcation mercredi au large de la Mauritanie. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les autorités mauritaniennes et l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Il s'agissait pour l'essentiel d'immigrants irréguliers qui tentaient de rejoindre l'Espagne en provenance de Banjul en Gambie, selon les premières informations recueillies auprès de la majorité des rescapés, a souligné le ministère mauritanien de l'Intérieur dans un communiqué. Le naufrage s'est produit mercredi à quelques 25 km au nord de la ville de Ouagadougou, à proximité de la frontière avec le Sahara occidental. Le bateau était parti de Gambie le 27 novembre et l'OIM précise que 83 passagers ont réussi à rejoindre la côte mauritanienne à la nage. Les survivants ont dit à des employés de l'OIM qu'au moins 150 personnes, dont des femmes et des enfants, étaient à bord. Politique au Mali, deux organisations armées ont fait connaître leurs conditions hier pour reprendre part au dialogue national visant à dégager des réponses politiques à la grave crise que traverse le pays. Les détails avec Eric Manirakiza.
La principale formation d'opposition refuse d'y participer. La coordination des mouvements de la Zawad, CMA, ex-rébellion à dominante Touareg, et la plateforme composée de groupes armés pro-gouvernementaux se sont elles aussi dissociées. Elles estiment que le président Ibrahim Boubacar Keïta a tenu samedi des propos ouvrant la porte à une remise en cause de l'accord de paix d'Alger. Le président Ibeka a mis sur les rails, en mai, un dialogue national dit inclusif, censé mettre les Maliens autour de la table et établir une feuille de route. Mais après des mois de consultations, cette initiative piétine. Les invitations avaient été émises pour réunir le 11 décembre le comité de suivi de l'accord d'Alger. La suspension des réunions de ce comité depuis des mois est considérée comme un autre motif de pessimisme. Dans un communiqué conjoint publié hier, les deux organisations disent qu'elles n'émettent pas d'objection à un éventuel retour au dialogue, mais elles ajoutent que l'accord d'Alger ne peut être modifié qu'avec le consentement express de tous les signataires. Elles réclament la création, dans les meilleurs délais, d'un cadre approprié pour discuter des modalités de leur participation.
Afrique de l'Ouest toujours, au Sénégal, un tribunal a condamné à 2 ans de prison avec sursis hier le marabout Cheikh Ouna Gueye, maître d'une école coranique où des talibés, des élèves apprenant le Coran, étaient enchaînés. Ces 5 co-prévenus, les parents de ces élèves et le forgeron ayant forgé les chaînes, ont écopé de la même peine avec sursis dans cette affaire semblable à plusieurs cas d'école coranique au Nigeria. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Dakar le journaliste Alassane Samba Diop.
D'abord, il faut dire que enchaîner des talibés, c'est une longue pratique traditionnelle qui a toujours existé au Sénégal aux temps anciens, parce qu'avant, les marabouts attachaient les talibés pour les empêcher de fuir, pour qu'ils puissent apprendre leur leçon. Donc, il y a certaines zones à l'intérieur du pays où certains marabouts pratiquent ce genre de situation sur des enfants. C'est pourquoi c'est un peu compliqué, parce que c'est une tradition qui a existé au Sénégal depuis la nuit des temps, mais le verdict qui s'est déroulé au niveau du tribunal de Louga, où le marabout Cheikh Ouna Gueye a été condamné à 2 ans avec sursis, à coup sûr, il y a une pression de la justice, on peut dire qu'il y a eu ce qu'on appelle un verdict d'apaisement.
Vous invoquez la coutume, est-ce pour dire qu'il y a une emprise religieuse sur l'autorité de l'État?
Ah ben c'est clair. Ce qui se passe aujourd'hui, ça le dit clairement. C'est clair que s'il n'y avait pas cette manifestation de talibés, s'il n'y avait pas cette intervention des marabouts sur ce qui s'est passé à Louga, ce qui est clair que ça pourrait ne pas se passer comme ça s'est passé aujourd'hui.
En quelque sorte, les parents et l'État ont démissionné de leur mission.
Oui, c'est les parents. Les parents, vous ne pouvez pas avoir votre enfant. Vous dites au marabout, je vous donne mon enfant, occupez-vous de tout de lui, vous ne participez pas à son éducation, vous ne payez pas son éducation. Pourquoi l'État du Sénégal ne fait pas des écoles coraniques, la même chose qu'ils savent des écoles françaises? Recruter des maîtres, leur payer des salaires, les mettre dans des commissions, ils apprennent la religion là-bas. Je pense que les enfants qui sont aussi dans les écoles coraniques ont les mêmes droits que les enfants qui vont dans les écoles françaises.
Le calife général des Mourides, qui a l'oreille des politiques, qu'est-ce qu'il en dit clairement?
Bon, le Khalif, il a dit que quand les gens se veulent lui raconter ce qui s'est passé avec cette histoire de Marabout qui a été emprisonné suite à cette affaire de chienne passée au pied des enfants, le Khalif a demandé que les gens restent calmes. De laisser lui s'en occuper, que l'État libé mourit de se calme par rapport à cette histoire, lui il va s'en occuper. Visiblement, il y a eu peut-être une discussion entre Khalif et le pouvoir politique, parce que quand le président de la République Macky Sall était parti dans un village qui s'appelle Kayel, c'était la journée de l'élevage, il en a profité pour aller se rendre visite au Khalif général de Mourid. En ce moment-là, je pense que la discussion était secrète, mais certainement cette question a été abordée entre les deux personnalités.
Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'interdire publiquement cette situation?
Non, c'est plus subtil que ça. Au Sénégal, le jeu entre pouvoir et pouvoir maraboutique ne se déroule pas comme ça. Il y a une sorte d'entente tacite entre les deux pouvoirs dans la gestion des questions des dites sensibles. Je pense qu'ils ne vont pas interdire nommément comme ça. Ils vont essayer quand même d'essayer de gérer une situation qui se déroule entre les deux personnalités. Le Khalif général de Mourid n'a jamais interdit publiquement ce genre de choses. Mais il y a quand même d'autres aussi marabouts, d'autres Sénégalais qui sont indignés de cette situation qui se déroule avec les jeunes. Les gens demandent aujourd'hui qu'il y ait beaucoup plus de pédagogie vis-à-vis des maîtres coraniques pour qu'ils comprennent que ces pratiques surannées n'ont plus lieu d'être.
Est-ce qu'il est contre cette pratique, au moins?
Mais on n'a pas réellement, il n'y a pas réellement une position claire par rapport à ça. Je n'ai pas vu, je n'ai pas lu, je n'ai pas entendu que dire que lui-même il est contre ces pratiques de façon réelle. Il n'en a pas parlé.
Alassane Samba Diop, journaliste à Dakar, au Sénégal.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Burundi, au moins 38 morts. Tel est le bilan provisoire des glissements de terrain dans la nuit de mercredi à jeudi, causés par de fortes pluies dans la commune de Mugina, province de Cibitoke, dans le nord-est du pays. Selon la police, 22 victimes ont péri à Niempundu, 3 à Gikomero et 13 à Rukombe. Des recherches continuent pour retrouver d'éventuels survivants. Les glissements de terrain sont fréquents au Burundi, un pays très montagneux de la région des Grands Lacs. La colline de Niempundu se trouve à moins de 5 km de la frontière du Rwanda, dans une zone difficile d'accès. Violence en République démocratique du Congo. L'armée congolaise dit avoir retrouvé le corps d'un casque bleu de la MONUSCO, la mission onusienne en RDC, près de Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Côté ONU, on indique seulement que le pays d'origine et la famille de la victime doivent être officiellement informés et que l'identification va prendre du temps. Résultat, la MONUSCO ne va rien confirmer avant longtemps, a souligné un porte-parole de la mission onusienne après l'annonce de cette découverte mercredi par l'armée congolaise. En Afrique du Sud, le candidat de l'ANC au pouvoir a décroché le poste de maire de Johannesburg, la plus grande ville du pays, lors d'une élection partielle. C'est une défaite cuisante pour l'opposition qui occupait cette fonction depuis 2016. Les détails avec John Lindon.
Geoff Makubo, candidat de l'ANC, a obtenu 137 voix contre 101 pour le candidat de l'Alliance démocratique et 30 pour celui des combattants pour la liberté économique lors d'une réunion du conseil municipal. Il vient remplacer Herman Mashaba, membre de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, qui a démissionné en octobre, reprochant à cette formation son approche de la question raciale, toujours sensible dans le pays. Johannesburg se retrouve de nouveau entre les mains de Geoff Makubo et des pilleurs professionnels de l'ANC, a réagi le parti d'opposition en référence aux soupçons de corruption qui planent sur le nouveau maire, qui est aussi un homme d'affaires. L'ANC, par la voix de son porte-parole, Pula Mabé, insiste sur le fait que Makubo n'a jamais été reconnu coupable.
Et pour terminer, actualité ici aux États-Unis, au Congrès américain, 3 professeurs de droit ont jugé mercredi à Washington que l'enquête en destitution contre le président Donald Trump était justifiée et même nécessaire pour protéger la démocratie américaine, ça attirant les foudres des élus républicains qui les ont accusés de partialité. Ces experts invités par la majorité démocrate de la Chambre des représentants ont été contredits par un confrère convié, lui, par les républicains, qui a jugé les preuves insuffisantes pour mettre le président en accusation et le juger au Sénat pour une possible destitution. Merci de votre attention.